France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. 68 millions de Français, 41 millions de contribuables qui peuvent déclarer leurs revenus dès aujourd'hui avec du changement pour tous les couples. On vous détaille tout cela dans un instant. La douche froide pour les salariés de Vencorex dans l'Isère. Leur projet de reprise débouté par le tribunal de commerce de Lyon qui choisit l'option chinoise. Nous verrons que c'est aussi un désaveu pour le gouvernement. Le drapeau blanc entre les États-Unis et l'Europe dans la guerre des droits de douane. La présidente de la Commission européenne annonce à l'instant qu'elle suspend les mesures de rétorsion après la pause décrétée hier par Trump. Le président américain qui est maintenant accusé, bonjour Claude Guibal.
Oui, accusé de délit d'initié, a-t-il sciemment provoqué une panique boursière pour permettre à certains de s'enrichir ?
Accusation formulée notamment par les démocrates. À tout de suite, à suivre encore ce meurtre résolu 11 ans après dans le Var, la sélection du prochain festival de Cannes annoncé ce matin. Et puis une chanson écrite par Jean-Jacques Goldman. Bonjour Julien Baldacchino.
Bonjour.
C'est toujours un événement, elle est présentée ce soir.
Et c'est une chanson caritative en hommage aux Bleuets de France. Ça fait quelque temps que Jean-Jacques Goldman aime ce genre de projet. Singulier.
A tout de suite, à partir de 13h30, Perrier, Vittel, Épart, nous parlons des eaux en bouteille. La commission d'enquête du Sénat sur les irrégularités du groupe Nestlé termine ses travaux. Les auditions étaient très mouvementées. Son rapporteur est avec nous, 01 45 24 7000 pour vos questions. Vous qui êtes consommateur. 13h50, c'est la France. La meilleure cantine de France se trouve dans une commune des Alpes-Maritimes. Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest nous dévoile sa recette. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. L'actrice et influenceuse Paola Locatelli choisit Rihanna et évidemment Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Le budget de l'État a eu beaucoup de retard à l'allumage cette année, voté seulement début février en raison de la censure du gouvernement Barnier. Mais le calendrier de la campagne annuelle de déclaration de revenus, lui, ne change pas. Vous pouvez déclarer dès aujourd'hui et je vous donnerai dans quelques instants les dates limites. Avant cela, bonjour Mathilde Romagnan.
Bonjour.
Voyons les nouveautés pour les 41 millions de contribuables. D'abord, il faut dire qu'il y a de nouvelles tranches pour éviter que des ménages ne payent davantage d'impôts en raison de l'inflation.
Oui, en fait, le barème de l'impôt sur le revenu est revalorisé d'1,8% pour chacune des tranches. Il y en a 5 et cela permet d'éviter que certains contribuables ne deviennent imposables en cas de hausse de leurs revenus pour compenser l'inflation. Alors si vos revenus n'ont pas augmenté entre 2023 et 2024, bonne nouvelle, votre impôt sur le revenu va diminuer. Autre exemple concret, si vous gagnez 11 497 euros par an ou moins, votre taux d'imposition est de 0%. Vous ne payez rien.
Autre nouveauté pour tous ceux qui sont en couple, le taux individualisé va devenir la norme.
Oui, car désormais, chacun devra payer en fonction de ce qu'il gagne et pas de ce que le foyer gagne. Car jusqu'à présent, par défaut, c'est le taux foyer qui était appliqué, à savoir la mise en commun des revenus des époux pour les couples mariés ou des partenaires pour les pacsés. Chacun payait le même taux, même si l'un gagnait moins que l'autre, à moins de choisir le taux individualisé. Cette année, donc, pour votre déclaration, c'est l'inverse. Il faut cocher la case « maintenir le taux foyer du prélèvement à la source », une mesure de justice fiscale et sociale selon Bercy, car la majorité des femmes gagnent moins que leurs conjoints. Actuellement, un peu moins d'un quart des foyers fiscaux concernés utilisent ce taux individualisé.
Et puis Mathilde, il y aura encore moins de déclarations papier cette année.
L'an dernier, 3 millions de nouveaux foyers ont fait leur déclaration en ligne. Mmh. Ces 3 millions de foyers ne recevront pas de version papier cette année. Vous avez choisi le numérique, vous y resterez. La ministre chargée des comptes publics dit vouloir simplifier les démarches, réduire l'empreinte carbone de ses services. Mais Amélie de Montchalin insiste, il n'est pas question de forcer les Français à déclarer en ligne. 7 millions de foyers remplissent encore, Jérôme, leur déclaration d'impôt en format papier.
Mais quand vous quittez le papier, c'est définitif.
C'est
merci
ça.
Mathilde Romagnan. Vous pouvez donc déclarer dès aujourd'hui jusqu'au 22 mai pour les départements de l'Ain à la Corrèze, jusqu'au 28 mai pour les départements de la Corse à la Meurthe-et-Moselle, ça c'est le 54, et jusqu'au 5 juin pour les départements 55, donc la Meuse, jusqu'à la Réunion et 976, c'est Mayotte. Pour les formats papier, vous avez jusqu'au 20 mai, et ce, quel que soit le département. Le tribunal de commerce de Lyon avait donc deux dossiers sur sa table pour la reprise de l'usine chimique Vencorex. Nous sommes à Pont-de-Clé, près de Grenoble. C'est un dossier sensible. Les sels qu'elle produit sont utilisés en France par les industries nucléaires et spatiales. Soit le tribunal choisissait le projet de reprise porté par les salariés, soutenu par la région et le gouvernement, soit il confiait le sort du site au groupe chinois Wanhua. Bonjour Mathilde Imberti.
Bonjour à tous.
Et c'est donc l'offre chinoise qui a été retenue.
Oui, l'offre chinoise qui ne reprend que 54 salariés, c'est un emploi sur 9 de l'effectif initial et un seul atelier repris sur le site immense de Vancorex, 120 hectares. C'est un coup de massue pour les salariés qui, de leur côté, en urgence, avaient conçu un scénario de reprise porté par un industriel local qui en avait persuadé une poignée d'autres. Mais ce projet n'est pas viable, a tranché le tribunal de commerce de Lyon. Pas assez de trésorerie, pas assez de garantie de financement. Alors un petit tour de réaction ce midi. La région Auvergne-Rhône-Alpes qui soutenait cette reprise en coopérative regrette, je cite, que ce fleuron industriel passe sous pavillon étranger. La CFE-CGC Chimie, syndicat de cadres, parle de catastrophe industrielle et sociale. Le cabinet du ministère de l'Industrie redit que l'État était prêt à mettre 1 euro d'argent public pour 1 euro d'argent privé. Le ministère se a dit qu'il se veut rassurant sur la souveraineté française en matière de sel notamment. Un sel, vous l'avez dit, produit par Vancorex. Pour le projet de défense Ariane, notamment, assure Bercy. Les salariés de Vancorex, eux, se réunissent sur le site en ce moment et s'exprimeront devant la presse à 14h.
Mathilde Imberti, correspondante d'Inter à Lyon. C'est une traduction concrète et immédiate des ordres et contre-ordres venus de Washington depuis quelques jours. La baisse du prix du baril de pétrole que vous avez sans doute constaté près de chez vous, à la pompe avec un diesel, par exemple, qui est passé dans beaucoup de stations en dessous d'1,60€ le litre. Alors les automobiles en profite, même si les prix ne devraient pas descendre beaucoup plus bas. Mathieu Bonnour s'est rendu à Villebon-sur-Yvette dans l'Essonne.
Philippe descend de sa voiture blanche. La carrosserie brille, il s'est arrêté dès qu'il a vu le prix du litre affiché sur le grand panneau au bord de la route.
1,60 au lieu de 1,69 la semaine dernière.
Il fouille dans son vide-poche avec l'historique de tous ses passages en caisse depuis 2 ans.
Moi je prends toujours l'étiquette, c'est pour faire la différence, pour okay. Voir comment ça évolue.
Et là, vous êtes à combien ?
40 euros, j'ai fait 25 litres. Je suis content. Que demander plus ?
Nabil a sa petite idée sur la question. Pour lui, cette baisse, ce n'est pas assez.
Espérons que ça va baisser, ça revient vers 1,30€, ça sera plus intéressant.
1,30€ le litre, ça n'arrivera pas, selon les pétroliers français et leur porte-parole, Olivier Gantois, le président de l'Union française des industries pétrolières. Il vise un litre de diesel à 1,55€, pas plus bas pour le moment, parce que la chute du cours de pétrole est en réalité une anticipation.
S'il y a un ralentissement de l'économie mondiale, le monde consommera moins de pétrole et il risque d'y avoir des excédents et donc que les prix vont baisser. Et du coup, les prix baissent avant que ça n'arrive.
De nombreuses questions, encore sans réponse. Et le prix du pétrole pourrait de nouveau baisser seulement si l'économie mondiale commence réellement à ralentir.
Mathieu Bonnour, arrêtons-nous maintenant un instant sur la cause de tout ce désordre dans l'économie mondiale, les incessants revirements du président américain Donald Trump. Rembobinons. Minuit hier, hausse générale des droits de douane, plus 20%. Dans la foulée, plongée des bourses. 9h30 hier matin, message de Trump. Restez cool, c'est le moment, je le cite, c'est le moment d'acheter des actions. Et finalement, quelques heures plus tard, 13h18, les hausses sont mises en pause pour tous les pays, sauf pour la Chine. Résultat immédiat, les cours des actions remontent. Entre-temps, tous ceux qui ont suivi le conseil de Trump d'acheter ont gagné beaucoup d'argent en quelques minutes seulement. La question est donc maintenant de savoir qui était au courant de ce revirement. Y a-t-il eu délit d'initié ? Claude Guibalon, on vous retrouve. L'administration Trump doit déjà rendre des comptes sur ce point.
Oui, et il se trouve qu'hier, au moment précis où tout le monde apprend à estomaquer ce revirement de Donald Trump, Jamison Green, le représentant américain en commerce, qui est donc le conseiller du président, est interrogé par le Congrès, par le représentant démocrate du Nevada, Stephen Horsford. Donald Trump, dit-il, a mis l'économie au bord de l'effondrement, des petits commerçants, des retraités, des épargnants, des gens qui mettaient de l'argent de côté pour envoyer leurs enfants à la fac ont perdu leurs bénéfices. Froidement, le représentant pose la question à Jamison Greer. Y a-t-il eu manipulation du marché ? Face à lui, Jamison Greer se tortille, mal à l'aise. Non, ce n'est pas de la manipulation de marché, dit-il. On a essayé de réajuster le système commercial global. L'élu démocrate explose. Alors, si ce n'est pas de la manipulation, qui en a bénéficié ? Quel milliardaire vient de s'enrichir ?
WTF ? Who's in charge ?
putain, mais qui est aux commandes ? Alors, à la Maison Blanche, on jure qu'il n'y a pas eu d'élite d'initiés, que le message de Donald Trump visait juste à rassurer les Américains. L'opposition, elle, entend lancer une enquête pour vérifier qui a acheté ou vendu et profité de cet affolement spéculatif. Pour l'instant, la SEC, la Security and Exchange Commission, qui est donc le gendarme boursier américain, se refuse à tout commentaire.
Merci Claude Guibal. Et aujourd'hui, dans la foulée de ces annonces, et puis donc de la suspension, hein, je vous le disais à l'instant, par l'Union européenne de la riposte aux droits de douane, les bourses mondiales rebondissent. Paris et Francfort ont ouvert en forte hausse, plus 6 et plus 7% ce matin, tout comme Tokyo, qui a terminé à plus de 9%. Le Japon, l'un des alliés les plus fidèles des États-Unis, était pourtant, dans la première version de Trump, l'un des pays qui était le plus pénalisé, avec 24% de taxes en plus. Finalement, ce ne sera que 10. Bonjour Karine Nishimura.
Bonjour à tous.
Karine, vous êtes en direct du Japon. Aujourd'hui, les Japonais sont déboussolés.
Oui, à commencer par les journaux qui n'arrivent plus à suivre et qui paraissent avec des titres de une déjà obsolètes. Et puis du côté du gouvernement, ben, on essaie de maintenir un cap, celui de requérir une exemption de taxes sans trop s'attarder publiquement sur l'attitude de l'allié américain. Yoshimasa Hayashi est porte-parole de l'exécutif nippon.
Nous nous abstiendrons de commenter la façon de procéder du gouvernement américain. Nous accueillons favorablement l'annonce de la suspension d'une partie des droits de douane, mais nous demandons néanmoins fortement à l'administration Trump de revoir aussi les autres taxes supplémentaires appliquées aux produits japonais, dont celles sur l'automobile, l'acier et l'aluminium.
On entend le soulagement, Karine, mais pas totalement.
Non, pas totalement. Ce que veut le gouvernement japonais, c'est obtenir par la négociation l'abandon des droits de douane de 10% restés en vigueur, mais aussi, voire surtout, la suppression de ceux de 25% supplémentaires très pénalisants déjà appliqués sur les automobiles et les pièces détachées. Le Japon espère contenter Donald Trump avec un ensemble de mesures, par exemple acheter plus aux États-Unis, assouplir des normes afin de faciliter la vente de produits américains au Japon, mais pas question de répliquer avec des droits de douane plus forts envers les États-Unis. Toujours rester aimable.
Karine Nishimura en direct du Japon. La Birmanie, elle, toujours en Asie, a bien d'autres préoccupations. Le pays fait face aux conséquences du séisme il y a 2 semaines et 15 jours plus tard, les zones rebelles, elles, sont toujours privées d'aide humanitaire. C'est le cas surtout dans les zones rurales où des familles avaient fui les combats avec l'armée au pouvoir et s'étaient réfugiées parfois dans des monastères. Notre reporter Esther Lebleu est l'une des rares à avoir pu rentrer dans le pays. Elle s'est rendue dans les temples en ruine situés sur les hauteurs de Sagaing.
La zone est un repère de combattants anti-junte. Les monastères jouent depuis toujours en Birmanie le rôle de refuge. Ici, au monastère Miawadi, une vingtaine de familles en provenance du Nord est arrivée il y a près d'un an déjà pour fuir le conflit. Ils vivent sous des bâches et mangent la nourriture donnée au temple par des locaux. 8 personnes de leur groupe sont mortes dans le séisme. Ongmin a 38 ans, il a perdu sa femme, il a 3 enfants dont un bébé de 7 mois.
On est venu ici car soit on allait finir par mourir dans une frappe aérienne de l'armée, comme des centaines de villageois dans notre district, soit mes compagnons et moi, on aurait été enrôlés de force dans l'armée. Je me serais bien battu aux côtés des groupes anti-junte, mais je ne voulais pas abandonner ma famille. Les moines nous permettent de rester si on travaille à la construction, à l'entretien. Il y a aussi un programme de méditation. On se sentait en sécurité ici.
Parce que le monastère se trouve dans les collines fréquentées par les groupes rebelles et que les routes pour y accéder sont escarpées, ces réfugiés n'ont même jamais entendu parler d'aide humanitaire. Habitués à une vie de privation, ils attendent la fin du conflit pour pouvoir rentrer chez eux.
Reportage en Birmanie, signé Esther Lebleu.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
C'est la une du journal Var Matin aujourd'hui. La terrible vérité sur le meurtre de Diego. Diego Baudin, 16 ans, retrouvé le corps lardé de coups de couteau chez lui à Sifour en 2014. L'enquête n'avait jamais abouti. Jusqu'à la publication par ce même journal il y a quelques semaines d'un article sur cette affaire non résolue. Ce papier a suscité un nouveau témoignage et a permis aux enquêteurs d'arrêter un homme qui est passé aux aveux, Damien Triomphe.
Un article publié dans Var Matin il y a un peu moins d'un mois qui revient sur ce meurtre non élucidé depuis 11 ans. Un lecteur le découvre et sort du silence. Il apporte un témoignage déterminant. Il met en cause un ami de Diego qui, comme lui, consommait de la drogue, un homme de 20 ans à l'époque. Les enquêteurs réentendent alors d'autres témoins, ça correspond. Il revérifie, son ADN a bien été retrouvé dans le salon de la maison où gisait le corps de la victime. Le suspect est alors interpellé mardi. Il avoue, oui, c'est lui qui, il y a 11 ans, a poignardé Diego à 32 reprises. Il explique avoir agi dans un moment de délire sous l'emprise de la drogue.
Précision ici Provence. Là, c'est une affaire à la lisière du fait divers, de la politique et peut-être de la diplomatie. Un influenceur algérien opposant au régime d'Alger a été victime d'un enlèvement mystérieux dans le Val-de-Marne. Il a depuis été relâché. 4 personnes ont été placées en garde à vue en début de semaine. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Cet homme est persuadé que le pouvoir algérien est impliqué.
Et c'est exactement ce qu'Amir Boukor a raconté d'abord aux enquêteurs de la police judiciaire du Val-de-Marne, puis ensuite, au vu de la gravité des faits, à ceux de la DGSI et de la brigade criminelle du 36, section antiterroriste, en charge également des affaires d'ingérence, de contre-espionnage, du moins quand la justice s'en mêle. Et là, c'est le cas, c'est rarissime. L'influenceur, journaliste et opposant algérien a eu la peur de sa vie, comme le raconte son avocat Éric Plouvier.
Amir Boukor, lorsqu'il a été entendu, a déclaré qu'il se voyait égorgé, mis dans un sac et envoyé en Algérie. C'était son impression. Était-ce simplement une intimidation contre lui? Y avait-il une volonté de le faire venir mort ou vif en Algérie? Nul n'est capable de répondre à cette question, sauf les commanditaires, bien évidemment. Il a d'évidence compris qu'il s'agissait du pouvoir d'Alger qui cherchait à le neutraliser.
Et ce dossier serait lié, selon nos confrères du Parisien, à l'arrestation récente d'un fonctionnaire à Bercy, compromis, recruté par un maître espion, officiellement en poste au consulat d'Algérie, un maître espion qui a comme par enchantement quitté la France ces dernières semaines. Les 4 suspects interpellés avant-hier ne seraient que des exécutants qui ont tenté de faire croire à l'influenceur algérien qu'il était enlevé pour une dette liée à un trafic de drogue. Leur garde à vue peut durer jusqu'à 4 jours. La DGSI n'a pas souhaité faire de commentaires, pas plus que le parquet national antiterroriste saisi de cette affaire très sensible.
Ce qui nous amène au dossier, merci Emmanuel Leclerc, des relations entre la France et l'Algérie, suivi de très près par le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui faisait ce matin le bilan de son action après 6 mois en fonction. Bonjour Timo Rosturk.
Bonjour Jérôme.
Bruno Retailleau, très soucieux de sa communication donc, mais qui demande du temps avant d'afficher des résultats.
Oui, les Yaka Faucons, ça ne suffit pas, se défend le ministre de l'Intérieur qui veut inscrire son action dans la durée.
Soyons clairs, on n'efface pas en quelques mois des décennies, parfois de laisser aller, de désordre.
Mais déjà, Bruno Retailleau avance de premiers résultats, immigration, narcotrafic, pour faire valoir qu'il est dans l'action. Mais il faut attendre une question de la presse pour l'entendre sur l'Algérie, alors que sa ligne du bras de fer a été écartée.
Qui est à la fois une fermeté pour le ministre de l'Intérieur et le dialogue pour la diplomatie, c'est parfaitement normal. Simplement, moi, je jugerai au résultat. Et les Français aussi.
Le ministre de l'Intérieur qui ne veut pas accorder trop d'importance à Laurent Wauquiez, son rival pour le Congrès des Républicains, et à sa sortie sur l'envoi des OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Je ne polémique pas sur cette proposition qui est à première vue déroutante.
Quant aux critiques sur les limites de sa politique à l'intérieur...
De toute façon, il a échappé à personne que la droite n'a gagné ni les présidentielles, ni les élections législatives. Demain, si nous pouvions avoir les rênes, on pourrait tellement faire, tellement plus.
Bruno Retailleau qui se projette à demi-mot vers la présidentielle et qui cite 2 prédécesseurs au ministère, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy.
Timo Rosturk, Bruno Retailleau qui se fait fort de concurrencer dans les urnes le Rassemblement National, un RN sonné depuis la condamnation de Marine Le Pen pour détournement de fonds publics et depuis ses troupes à l'Assemblée se montrent plus véhémentes. Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
Vous êtes sur place pour Inter, si bien que ces derniers jours à l'Assemblée, les incidents se sont multipliés.
Oui, alors il y a eu d'abord hier cet incident dans les jardins de l'Assemblée, des députés LFI qui s'insurgent auprès des journalistes de Frontières, journal d'extrême droite, de ce que les noms de leurs collaborateurs ont été désignés à la vindicte publique. Un journaliste historique de l'Assemblée est molesté, mais c'est surtout dans l'hémicycle que le député RN coupe les débats pour revenir incessamment sur l'affaire.
Nous demandons à ce que la présidente de l'Assemblée nationale réponde à la question d'éventuels faits délictueux commis par des députés dans l'enceinte à côté de l'hémicycle.
Dans la soirée, les communistes sont accusés par un député RN de ne pas débattre, mais d'éliminer colère du député Stéphane Peu.
C'est ça l'histoire du Parti communiste. C'est le parti qu'on a dit être le parti des 75 000 fusillés.
Merci.
Vous n'avez pas le droit de dire ça,
Monsieur le Président.
Alors en réalité, depuis lundi, les incidents de séance se multiplient. Et c'est paradoxalement LFI qui a une pratique affûtée de la bordélisation qui vient à la rescousse du gouvernement Raphaël Arnaud.
Le RN aujourd'hui cherche à bordéliser. On a vu une succession comme ça dans les séances parlementaires, part dans tous les sens, qui cherche à... Comme hier, ils ont vraiment cherché à saturer la séance, à empêcher la séance. Nous, on a fait comme si de rien n'était. On a voulu continuer notre travail parlementaire. C'est ce pourquoi on est censé être ici.
Alors LFI joue sur du velours, d'autant que les textes étudiés cette semaine, notamment la parité dans les conseils municipaux ou le changement du scrutin Paris-Lyon-Marseille, le groupe avait les mêmes intérêts que le gouvernement.
Laurence Perron avec les moyens techniques de Martin Troadec. Était-ce un effet d'annonce ? Hier, la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, a promis que le dispositif pause numérique allait être généralisé. Il prévoit que les élèves déposent leur téléphone à l'entrée de leur établissement et le récupèrent à la sortie. Mais ça signifie équiper tous les collèges de France. Alors ce matin, Sarah Mansoura, le ministère temporise.
Oui, car à ce stade, c'est un souhait de la ministre, acter cette généralisation aux quelques 3 400 000 collégiens. Mais la décision n'est pas encore formellement prise. Il faudra dans les prochaines semaines discuter avec les départements. La ministre, qui estime que le coût par collège serait soit nul, soit de l'ordre de quelques milliers d'euros, a confirmé vouloir laisser le choix des modalités au chef d'établissement, savoir par exemple s'il faudra installer des casiers partout ou privilégier des pochettes pour ranger les téléphones, une solution moins onéreuse. L'association Départements de France, qui en août dernier chiffrait l'installation de casiers à près de 130 millions d'euros, prend acte de cette confirmation, tout en soulignant que, selon ses échanges avec les départements, il n'existe pas de demande généralisée de la part des chefs d'établissement. À Paris, par exemple, un seul collège aurait exprimé un intérêt pour des casiers sécurisés. L'ADF aujourd'hui insiste sur le fait qu'aucune participation financière ne devra être imposée aux départements. À ce jour, dit-elle, seuls deux ont cofinancé, à titre exceptionnel, des équipements dans un collège chacun.
Dans le département de l'Isère, les parents d'élèves ont d'autres priorités que les portables, car l'épidémie de rougeole prend de l'ampleur. Le cluster apparu à la Côte-Saint-André au mois de mars n'est pas endigué. De nouveaux cas ont été détectés. Alors l'Agence régionale de santé a décidé d'étendre la campagne de vaccination à d'autres établissements scolaires, Noémie Philippot.
Le fils de Sandra a 7 ans et il a eu des symptômes inquiétants ces derniers jours.
Mon fils a fait de la fièvre pendant presque une semaine et on est allé voir la pédiatre qui a supposé une rougeole due à l'épidémie qui est en ce moment dans le secteur.
À partir de là, il faut entamer pas mal de démarches, une déclaration auprès de la pédiatre, un rendez-vous en laboratoire d'analyse. Sandra a trouvé le temps long avant d'être finalement rassurée.
Ce qu'il faut faire, c'est un test PCR. On l'a fait un jeudi matin, on a eu les résultats le vendredi soir. Et par chance, il a été négatif. Soulagement pour moi, pour les maîtresses et pour les quelques mamans qui étaient au courant que mon fils était malade.
Parmi ces mamans, Johanna, dont un des 3 enfants est scolarisé au collège privé de l'institution Lusy du Feillan de Beaurepaire.
Par mail, ils ont contacté toutes les familles pour proposer la vaccination de la rougeole pour ceux qui n'étaient pas vaccinés.
La première chose que j'ai fait, j'ai ressorti le carnet de vaccination pour vérifier qu'ils soient bien vaccinés.
En tant que parent aussi, vous avez checké vous-même vos vaccins.
J'avoue, je l'ai fait juste avant parce que je me suis dit, j'ai vérifié les enfants, je me suis pas vérifié moi. Je suis bien à jour aussi, mon vaccin je l'ai fait en 2018 justement.
Comme elle, beaucoup de parents se sont dépêchés de vérifier et ils sont quand même nombreux à pousser la porte de la pharmacie de Benoît Quillon pour se faire vacciner.
Ça concerne surtout une tranche de personnes qui n'étaient pas concernées par l'obligation vaccinale. Déjà les parents des enfants, ça peut être les jeunes, pas encore concernés par l'obligation vaccinale.
Le vaccin contre la rougeole est obligatoire pour tous les enfants nés à partir du 1er janvier 2018.
Reportage ici Isère. Le premier film de Scarlett Johansson, une fiction inspirée de la vie de la milliardaire Liliane Bettencourt, encore une adaptation du roman Connemara de Nicolas Mathieu. Voilà quelques-uns des films qui seront présentés à partir du 13 mai lors de la 78e édition du Festival de Cannes. Une partie de la sélection a été dévoilée ce matin. Bonjour Corinne Pellissier.
Bonjour.
Corinne, vous y avez assisté et ce qui vous rend particulièrement impatiente, ce sont les films que présenteront 6 réalisatrices cette année.
Mais oui, les femmes ne demandent plus leur place au Festival de Cannes, elles la prennent, a rappelé en préambule la présidente Iris Knobloch, qui affirme prendre très au sérieux les résultats de la commission d'enquête parlementaire sur les violences sexuelles et sexistes, et se dit très heureuse d'afficher une sélection en phase avec les grandes évolutions de notre société. Parmi les 6 réalisatrices en lice pour une Palme d'Or, on retrouve 2 Françaises, Avia Herzi et Julia Ducournau, qui s'apprêtent à faire son grand retour sur la croisette après 4 ans après sa Palme d'Or pour Titane. Son nouveau film s'appelle Alpha avec Jodie Foster, Tahar Rahim. Amélie Bonin fera elle l'ouverture avec Partir un jour. C'est un premier film programmé le 13 mai, toujours chez les Français. Dominique Moll et son dossier 137 décrochent son ticket pour la compétition. Rebecca Zlotowski, Cédric Clapiche et Hubert Charuel seront bien présents, mais dans d'autres sections.
Sélection qui n'est pas complète. Corinne, mais on a déjà des grands noms du cinéma international également.
On va retrouver dans la compétition quelques habitués, les frères Dardenne, Wes Anderson, Jafar Panahi ou l'Égyptien Tariq Saleh. Un film aussi de Richard Linklater sur la nouvelle vague. Un autre sur Marcel Pagnol hors compétition par Sylvain Chomel, réalisateur des Triplettes de Belleville. Et puis une curiosité pour les fans de U2, un documentaire réalisé par le chanteur Bono en compétition sans doute à l'applaudimètre avec Tom Cruise, très attendu pour le dernier volet de Mission Impossible.
Un festival que vous nous ferez vivre, évidemment. Merci Corinne Pellissier. Il est toujours la personnalité préférée des Français, même s'il n'a sorti aucune chanson depuis 23 ans maintenant. Jean-Jacques Goldman fait un retour discret ce soir, salle Pleyel à Paris. Quelques centaines de spectateurs vont avoir le privilège d'écouter une chanson qu'il a écrite et composée pour la bonne cause, celle du Bleuet de France. C'est un organisme de soutien aux blessés de guerre, aux victimes du terrorisme et aux pupilles de la nation. Bonjour Julien Baldacchino.
Bonjour.
Jean-Jacques Goldman écrit ses chansons au compte-gouttes et ses choix sont plutôt surprenants.
Oui, vous vous souvenez peut-être, l'an dernier, il avait offert une chanson à une classe de CE1 qui préparait un spectacle sur la résistance. Il avait même prêté sa voix parlée à la chanson.
C'est en regardant au soleil et à la belle nature que j'ai tant aimé que je dirai adieu à la vie et à vous tous. Je vous serre tous sur mon cœur.
L'année d'avant, c'était sur un album du violoncelliste Gauthier Capuçon qu'il avait signé un titre interprété par la maîtrise de Radio France. Tendez l'oreille, c'est bien du Goldman.
Allons ensemble au-delà des
Effectivement.
Ses dernières collaborations avec des artistes de variété, c'était en 2022 avec le groupe 3 Cafés Gourmands. Depuis, ce sont donc ses projets singuliers avec un message fort qui attire son attention. Et ce soir donc, la chanson dévoilée « On sera là » est un hommage au Bleuet de France. Ce sont 2 jeunes artistes, Ivar et Héloïse, qui seront au micro. Tous deux ont en commun d'être d'anciens gendarmes. D'après nos informations, la chanson sera disponible dès demain sur les plateformes d'écoute. Depuis sa dernière tournée en 2002 et a fortiori depuis qu'il a quitté les Enfoirés en 2016, Jean-Jacques Goldman se tient bien à son retrait de la vie publique. Il en est sorti une seule fois. C'était en 2020 pendant la crise du Covid pour rendre hommage aux soignants dans une simple vidéo filmée au smartphone.
On sera là, chanson écrite par Jean-Jacques Goldman et chantée par 2 anciens gendarmes. C'est ce soir. Merci Julien Baldacchino. 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Cala qui nous rejoint à l'instant. Puis à 13h30, le rapporteur de la commission d'enquête du Sénat sur le scandale des eaux en bouteille est avec nous, Alexandre Ouizille, 01 45 24 7000 pour vos questions. Il va nous dire ce qu'il a découvert sur les eaux du groupe Nestlé notamment. 13h45, notre feuilleton, quel est le secret des cabarets plébiscités un peu partout en France. Nous sommes toujours en immersion dans la Loire. 13h50, c'est la France et c'est une chanson, Marie-Luce Ribaud et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Marie-Luce, la meilleure cantine de France avec vous, où se trouve-t-elle ?
À Moins-Sartoux, sur les hauteurs de Cannes, à la cantine mais aussi à la maison, on s'y nourrit mieux. Pas bête, cette petite ville propose de former à la transition alimentaire les futurs candidats aux municipales.
Et vous allez nous donner adresse et recette. Et avec vous Frédéric, une influenceuse.
Paola Locatelli, l'une des stars françaises des plateformes et des réseaux, devenue aujourd'hui actrice. Elle tient son premier grand rôle au cinéma dans le film Rapide qui sort la semaine prochaine. Et c'est une star de la Barbade que nous écouterons avec elle, Rihanna, sa chanteuse préférée.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Dans la vie, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut débattre. Des sujets qui divisent, qui rassemblent ou font réfléchir. Mais la santé, elle, ne devrait pas faire débat. Pourtant, aujourd'hui, elle reste un enjeu pour beaucoup. Alors chaque jour, le groupe Vive agit pour que vous soyez bien soignés, bien protégés et bien logés.
Parce que la santé est un droit, le groupe Vive, groupe mutualiste de santé et de protection sociale, agit grâce à ses mutuelles et à son réseau d'établissements de soins et de logements pour que personne ne soit laissé de côté. Groupe Vive, pour une santé accessible à tous. Groupe Vive, organisme régi par le code de la mutualité.
Il est... comment dire...
Bon ?
C'est ça, il est bon ton jambon.
Jambon de Bayonne.
Ah bah oui.
Le jambon de Bayonne, bon pour le goût, bon par engagement, bon tout simplement.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
France Inter, partenaire du documentaire France.tv Création, Les Résistantes, adapté du podcast original de Philippe Collin.
Elles furent les premières à réagir et à initier un esprit d'insoumission et de désobéissance.
Le destin de cinq résistantes témoigne du rôle longtemps oublié, mais crucial, des femmes dans le combat contre l'occupation.
On vous a légué la liberté, à vous de la faire progresser, de la faire grandir.
Les Résistantes, dimanche prochain dès 21h05 sur France 5 et sur la plateforme France.tv avec France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo. Avec Préfonds, l'expertise retraite, épargne et prévoyance de la fonction publique depuis plus de 60 ans. Pour une retraite solide, même par temps incertain. Préfonds.fr.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Printanier ce temps.
Oui, beaucoup de soleil. Alors il peut rester quelques grisailles vers l'extrême nord et le Cotentin. Quelques nuages vraiment sans conséquence du Languedoc à la Côte d'Azur. Ils sont un peu plus nombreux sur la Corse avec parfois une averse. Pareil vers les Pyrénées avec un risque d'averse et d'orage cet après-midi. Le vent de nord-est se fait sentir sur une bonne partie nord, alors surtout près de la Manche et vers les Charentes. Et puis il y a aussi du vent, de l'eau, au midi toulousain, un vent d'autant jusqu'à 50 km/h. Les températures sont douces, souvent 18 à 21 degrés cet après-midi, jusqu'à 24 encore pour le sud-ouest. Et un petit peu moins de la pointe bretonne au nord de la Seine, 11 à 17 degrés. Demain, la douceur va encore s'accentuer un petit peu l'après-midi. Le soleil s'imposera partout. Mais en fin de journée, des nuages et quelques pluies s'inviteront sur les Pyrénées. Ça annoncera le changement de temps pour le week-end.
Merci, on aura le temps d'en reparler demain. Merci Elodie Calac, Météo France.
France Inter, de 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour Alexandre Wizil.
Bonjour.
Vous êtes sénateur socialiste de l'Oise, vous êtes également le rapporteur de la commission d'enquête sur le scandale des eaux en bouteille, c'est-à-dire les pratiques du groupe Nestlé Waters, épinglé par plusieurs enquêtes journalistiques, dont celle de la cellule investigation de Radio France, épinglé pour avoir commercialisé de l'eau minérale naturelle filtrée, ce qui est illégal, et avoir pu le faire alors que l'Élysée, la présidence de la République, était au courant depuis 2022. Ça, c'est ce que vous avez découvert ces derniers jours. Merci d'être avec nous. Je précise que c'est un sénateur Les Républicains, Laurent Burgois, qui préside cette commission d'enquête. 01 45 24 7000 pour les auditeurs qui veulent vous interroger. Vous passez également via la application France Inter. J'accueille également Marie Dupin. Bonjour Marie.
Bonjour Jérôme.
Journaliste à la cellule investigation de Radio France. C'est vous qui enquêtez pour Radio France sur cette affaire et qui avez signé une partie des révélations qu'on a d'ailleurs relayées ici même dans ce 13-14. Alexandre Wizil, une centaine de personnes auditionnées depuis le mois de décembre. C'était la dernière hier, où il vous en reste quelques-unes dans les prochains jours.
Il nous en reste une pour sûr, c'est celle de M. Aurélien Rousseau, hein, qui a été directeur de cabinet de la Première Ministre et qui a été ministre de la Santé. On le recevra dans quelques semaines. Et puis, on ne s'interdit pas, si de nouvelles révélations venaient à surgir, de continuer à interroger. Mais c'est vrai qu'on est plutôt au bout de nos auditions. Maintenant, c'est le moment du rapport et des recommandations.
Rapport qui sera rendu mi-mai, donc le Exactement. 19 mai, c'est ça, c'est la date. Bon, vous n'allez pas nous dévoiler le rapport aujourd'hui, mais quel est pour vous le principal enseignement? Qu'est-ce que vous avez appris vraiment d'important dans ces investigations, ces auditions et ces déplacements? Parce que vous êtes aussi allé sur le terrain.
Oui, on a été sur les sites et les usines d'embouteillage. Disons qu'il y a plusieurs types d'enseignements, si vous voulez. Il y a d'abord la dégradation de la qualité de la ressource en eau, de ces eaux souterraines qui étaient supposément protégées, et la manière dont il y a eu une défaillance sur la protection. Il y a ensuite la question du contrôle public qui s'est exercé, la manière dont l'État s'est ensablé, s'est embourbé. Il y a la question politique, le fait que des gens, dès l'été 2021, ont été au courant, des ministres, l'Élysée, je le rappelais, depuis 2022, et qu'il soit venu à l'idée de personne d'aller informer le public qu'il y avait une fraude massive à la consommation, et je ne parle pas des enjeux sanitaires qui sont liés au fait que lorsque les eaux sont polluées, contaminées, le retrait de ces filtres pose évidemment des questions sanitaires. Donc vous voyez, il y a toutes ces questions, et puis on a fini aussi hier avec, si vous voulez, moi, Nestlé, qui a mis une pression assez forte sur cette commission. Moi, il ne s'est pas passé un mois sans que je reçoive un courrier me disant que ma commission était illégitime, qu'elle n'avait pas lieu d'être. Et donc, il y a aussi la question de conforter le rôle des commissions d'enquête. Monsieur Köhler n'est pas venu devant nous.
Alexis Köhler, secrétaire général de l'Élysée, on va en parler dans un instant.
Et donc, il y a tous ces enjeux-là aussi de conforter les pouvoirs du Parlement, qui pour moi est émergé lors de cette commission.
Yvon nous appelle d'Auxerre. Bonjour Yvon.
Bonjour, merci d'avoir choisi ma question. J'espère qu'elle va pas tomber à plat.
Mais non.
Donc Nestlé aurait violé la loi. Pourquoi le gouvernement a fermé les yeux ? Ma question est pourquoi, alors conditionnel, pourquoi le gouvernement aurait fermé les yeux ? Je parle des ministres.
Merci pour votre question directe, Alexandre Ouizil. Est-ce que vous employez le conditionnel comme Yvon ou est-ce que vous dites aujourd'hui non, le ou les gouvernements ont fermé les yeux sur des pratiques illégales ?
Je ne dirais pas fermer les yeux parce qu'il y a eu un certain nombre d'initiatives qui ont été prises. En revanche, le fait de ne pas le révéler au public, ça c'est certain. C'est évident, c'est-à-dire qu'il a fallu attendre l'enquête de Marie Dupin pour que les choses deviennent publiques. Il y a eu quand même un rapport de l'IGAS, vous savez, ces rapports, c'est des rapports des inspections générales où le gouvernement, un ministre, d'ailleurs c'est un des points de la commission où pour l'instant on n'arrive pas à trouver la réponse, a décidé de la non-publication de ce rapport. C'est quand même un choix politique, donc il y a eu un choix de ne pas informer le public qui a été clairement fait.
Pour savoir pourquoi ce choix avait été fait, vous aviez convoqué, on peut dire ça comme ça.
C'est comme ça qu'on dit, auditionné, oui.
Le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, c'est-à-dire le bras droit du président, en fait, hein, à l'Élysée depuis 2017, qui a d'ailleurs quitté récemment ses fonctions, il a refusé de venir vous répondre. Il a refusé au nom de la séparation des pouvoirs. Est-ce qu'il en a le droit ?
Alors pour moi, non. Je vais vous dire pourquoi. D'abord parce qu'il faut être cohérent. On a auditionné dans le cadre de cette commission d'enquête des conseillers de la présidence de la République. Monsieur Victor Blonde est un conseiller partagé entre l'Élysée et Matignon. Si la séparation des pouvoirs devait s'appliquer, elle s'appliquerait à monsieur Blonde également. Autre élément, ils nous ont transmis, c'est ce que je disais hier, 75 pages de documents. Comment on peut dire que les documents ne sont pas couverts par l'irresponsabilité et le fait de venir les commenter, les expliquer, les justifier en commission serait couvert par la question de l'irresponsabilité du président ? En fait, responsabilité du président, elle s'applique au président. Mais comme je vous le disais, c'est un point qu'on veut clarifier dans le droit pour que tout ça ne soit plus possible.
Avant de venir aux documents donc, qui vous ont été fournis par l'Élysée, je voudrais qu'on prenne Bernard qui est au standard, qui nous appelle de Lille. Bonjour Bernard.
Oui, bonjour.
Vous avez une question pour Alexandre Ouizil.
Quelles sanctions ont couru les politiques qui avaient couvert cette affaire ? Parce qu'on est assez habitué aux responsables mais pas coupables.
Merci Bernard pour cette question, Alexandre Ouizil. Est-ce qu'il y a des sanctions possibles ? Et puis après, est-ce qu'il y a une sanction possible aussi pour Alexis Kohler ?
Alors, pour un certain nombre de choses, les affaires sont devant le juge pour ce qui concerne Nestlé. Il en a fallu du temps, hein, ça je le précise aussi, pour que dans un certain nombre d'endroits, les enquêtes soient ouvertes. Hein. Et puis ensuite, la question de la responsabilité politique, c'est autre chose. Et ça, il va falloir regarder les choses de près. Vous me laissez, s'il vous plaît, le temps d'aller au bout de ce rapport pour examiner les choses. Et pour ce qui concerne Alexis Kohler,
en effet,
la non-déposition entraîne un certain nombre de conséquences. Le choix qu'on a fait, on a vu qu'à l'Assemblée nationale, ils avaient fait le boulot, quelque part, puisque la justice a été saisie. Nous, le choix qu'on a fait à l'unanimité de la commission, ce qui faisait l'unanimité dans la commission, c'était de faire une réponse politique en clarifiant le pouvoir des commissions d'enquête et l'ordonnance de 58 qui les régit.
Mais vous ne le signalez pas à la justice ?
On a une discussion qui est en cours et permettez qu'on aille au bout de cette discussion dans l'unanimité de cette commission d'enquête parce que, évidemment, c'est important que cette commission reste unie.
Ce que je comprends, c'est que tout le monde n'est pas d'accord peut-être sur ce point et il faut arriver à trouver un consensus.
Ce que vous comprenez, c'est qu'il y a
consensus.
Il peut y avoir du débat et des discussions sur ce sujet.
Qu'avez-vous appris à la lecture des 75 pages, c'est ça, transmises par l'Élysée ?
Tout à fait, 75 pages. Bah écoutez, ce qu'on a appris, c'est qu'on a un certain nombre de notes, de documents qui nous ont été présentés. Ce qu'on a appris, c'est un petit peu ce que j'ai relayé en commission, à savoir que...
Il y avait des discussions directes entre l'Élysée et les patrons de Nestlé.
C'est l'une, si vous voulez, des éléments les plus surprenants. Quand vous interrogez ce que nous avons fait, Roland Lescure, ministre de l'Industrie, qui vient déposer devant nous, il nous dit « Moi, Roland Lescure, je n'ai jamais rencontré Nestlé ». Directement. Il y a eu des contacts avec son cabinet, jamais directement. Vous apprenez en revanche qu'Alexis Kohler a de multiples reprises à rencontrer, soit eu des conversations téléphoniques avec les plus hauts patrons de Nestlé et de Nestlé Waters. Donc, dans ce cas, cette configuration-là, vous voyez bien qu'il y a eu, je ne sais pas si on peut dire contournement, mais en tout cas, prise de contact prise directement à l'Élysée.
Pour continuer à exploiter notamment les sources du Gard ?
En tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, ce qu'on a eu comme information qui est toute fraîche, si vous voulez, c'est le rapport des hydrogéologues qui ont été mandatés. Ce rapport, que dit-il ? Il dit qu'en effet, pour ce qui est d'un certain nombre de puits dans le Gard, un nombre très important de puits, les conditions d'une eau minérale naturelle ne sont plus réunies. Nous n'avons plus le critère de la pureté originelle, qui est un critère fondamental, qui fonde la naturalité. Et donc, il y a une question de contamination de la ressource. Et donc, la poursuite de l'appellation sur eau minérale naturelle, c'est une décision préfectorale. On attend ce que va dire le préfet. Mais en effet, pour ce qui a été dit du point de vue de la science, des hydrogéologues, ce n'est plus de l'eau minérale naturelle.
On rappelle ce qui est au cœur de cette affaire, Marie Dupin, c'est précisément, est-ce qu'on peut parler d'eau minérale naturelle quand on la filtre et quand on ne respecte pas la réglementation?
Oui, voilà, Alexandre Ouzi dit, on a un rapport des hydrogéologues là, qui vient d'être transmis à la commission sénatoriale et qui montre que ce n'est plus de l'eau minérale naturelle, c'est-à-dire tout simplement qu'en fait l'eau qui est exploitée sur le site de Perrier est contaminée par des bactéries, peut-être par des virus. Cette eau, effectivement, n'est plus de l'eau minérale naturelle et elle continue d'être mise en bouteille comme telle et vendue comme telle. Et en fait, effectivement, il y a ce rapport des hydrogéologues, mais la vérité, c'est que ça fait 5 ans que le gouvernement sait que ce n'est plus de l'eau minérale naturelle. C'est bien pour ça que Nestlé a traité ses eaux. Et dès le départ, Nestlé va voir le gouvernement en disant, voilà, on a un problème avec la qualité de nos ressources en eau. On est obligé de traiter cette eau. Et il y a eu tout un tas de rapports. Là, il y a le rapport des hydrogéologues, mais il y a déjà eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de rapports qui ont été produits par l'administration et qui disent cela, qui disent, ce n'est plus de l'eau minérale naturelle. Ce n'est plus possible de la vendre comme telle. Et d'ailleurs, voilà, on parle beaucoup de cette histoire au passé, mais en fait, cette histoire, elle se conjugue au présent. Puisque encore aujourd'hui, il y a des filtres non conformes qui sont dans l'usine du Gard, dans l'usine Perrier, et donc et qui sont utilisés pour traiter une eau qui n'est plus pure, qui n'est plus de l'eau minérale naturelle. Et c'est juste la vérité, c'est juste ça. Et donc la fraude continue aujourd'hui avec l'assentiment du gouvernement.
Que vous dit le directeur général de Nestlé Waters, que vous avez entendu hier, Alexandre Ouzil, sur ce point? Ils veulent continuer tout de même à exploiter l'eau de Perrier, malgré l'avis défavorable, hein, c'est ce qu'il a révélé hier, rendu par des hydrogéologues mandatés par la préfecture.
Bon, d'abord, vous dire que c'était un peu l'audition de la dernière chance pour avoir un semblant de discussion avec Nestlé. On a reçu la présidente de Nestlé Waters, l'ancienne présidente de Nestlé Waters, c'était silence, réponse robotique, une forme de page de réclame pour l'entreprise, mais jamais, jamais la réponse à nos questions. Donc, au départ, on ne pensait pas auditionner le patron de Nestlé, on l'a finalement fait hier. Ce qu'a dit le patron de Nestlé, c'est un peu plus subtil que ça pour le coup. Il a dit, on continuera à exploiter dans les conditions réglementaires qui le permettent.
Je veux dire, tant que la préfecture ne nous dit pas d'arrêter, on continue, c'est
attendez,
ça que ça veut dire ?
Ça veut dire ça, vous avez raison, mais ça veut aussi dire que si demain, ce n'est plus de l'eau minérale naturelle, si vous voulez, à Perrier, ils ont prévu un peu les choses. Il y a une marque annexe qui s'appelle Maison Perrier, que vous trouvez dans les grandes surfaces, qui n'est plus de l'eau minérale naturelle, mais qui est ce qu'on appelle de l'eau de boisson, et qui représente déjà 50% de l'activité de Perrier sur le site. Donc vous pouvez très bien imaginer, non pas une cessation d'exploitation, mais le fait que ça bascule dans ce qui n'est plus de l'eau minérale naturelle, mais ce qui est de l'eau de boisson commercialisée sous l'appellation Maison Perrier. Mais ce sera à Nestlé de le dire. Mais c'est plutôt ça, moi, que j'ai senti que l'arrêt de la production dans la réponse du dirigeant.
Le directeur général de Nestlé, hier, vous a dit on va lancer une revue interne en France sur nos pratiques passées. Sur les pratiques passées. Pour vous, c'est un premier pas d'examen ?
Je vous dis, comme je le ressens, il y a les paroles et les actes. Si vous voulez, moi je veux bien qu'on me dise que maintenant il faut un audit pour comprendre ce qui s'est passé. Ce que je sais, ce qu'on m'a dit auparavant, c'est qu'il n'y a pas eu d'enquête interne, qu'il n'y a pas eu de sanctions internes sur ce qui s'est passé. Je salue le fait qu'aujourd'hui on veuille caractériser les choses, mais moi je suis rapporteur de cette commission, je suis incapable de vous dire quand a commencé la fraude chez Nestlé. Et personne chez Nestlé n'a été capable de me dire quand est-ce qu'ils ont commencé à installer des filtres à charbon, des lampes à UV, bref, les traitements pour l'eau du robinet, pour les eaux minérales naturelles. Donc les eaux minérales naturelles, c'est pas des eaux minérales traitées, c'est naturel. Et donc ça, aujourd'hui, personne ne me l'a dit. Donc à la fois, c'est une réponse un peu dilatoire, hein, disons les choses simplement. On me dit, je vais vous dire qu'un jour, nous allons faire un rapport. Comment on veut enterrer un sujet, on crée une commission, on dit souvent ça, vous savez, en politique. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Malgré tout, je prends le point et j'attends la réponse, qu'on nous dise, qu'on puisse aller au bout de la vérité pour savoir quand cette fraude a commencé. Je vous rappelle que l'évaluation et l'estimation minimale de la DGCRF, c'est une fraude de l'ordre de 3 milliards d'euros aux consommateurs. C'est l'estimation minimale.
Marie Dupin, ce qu'on attend maintenant, c'est la décision de la préfecture du Gard.
Bah oui, voilà, hein, Nestlé a gagné du temps. Voilà. Donc Nestlé gagne du temps depuis 2021. Nestlé gagne du temps et les pouvoirs publics laissent Nestlé gagner du temps. Aujourd'hui, Nestlé continue de commercialiser auprès des consommateurs du Perrier comme de l'eau minérale naturelle, alors que ça n'en est plus. plus, et alors que des tas de rapports administratifs le disent. Donc maintenant, c'est au préfet, effectivement, au préfet du Gard, de se prononcer, de dire oui ou non, est-ce que Nestlé peut continuer à exploiter ses sources comme de l'eau minérale naturelle, alors que de toute évidence, eh bien, ça n'en est plus.
Je l'ai dit, Alexandre Wizil, vous êtes dans cette commission avec d'autres sénateurs, mais notamment un sénateur LR du Gard, donc directement concerné, et qui la préside. Est-ce que les intérêts économiques en jeu vous ont à un moment alerté, ou est-ce que ça a été l'une des alertes de vos interlocuteurs, notamment chez Nestlé? On emploie des gens, Monsieur Wizil.
D'abord, les intérêts économiques, nous aussi, ça nous concerne. Il y a des gens sur le terrain, il y a des ouvriers dans des usines, des employés dans des usines.
Donc, vous les avez rencontrés?
Et on les a évidemment rencontrés quand on s'est déplacé. Et pour vous dire, c'est ceux qui suivaient le plus notre commission d'enquête, et c'est ceux qui le plus voulaient aller au bout de la vérité. Et c'est ceux qui aussi nous ont dit à un moment, vous savez, l'activité de Nestlé, en dépit de tout ce qui se passe, elle est florissante. Donc le sujet, si vous voulez, évidemment qu'on a la pleine conscience de tout ça. Et je veux dire, pour dire quand même saluer mon collègue Laurent Burgois, nous venons de bords politiques différents, c'est le jeu de
vous
ces commissions.
Vous socialiste et lui les républicains.
Voilà, je suis socialiste et les républicains. C'est le jeu de ces commissions d'enquête. Il a été dans cette commission, avec moi, exemplaire. On a été au bout de la vérité, on a été chercher toutes les informations, toutes les auditions ensemble. Voilà, donc évidemment qu'on est soucieux de ce qui va se passer maintenant sur le site. Uh-huh. Ce que je vous dis aussi, ce que je vous disais, c'est que l'exploitation, elle peut continuer avec Maison Perrier, et qu'ils ont déjà, si vous voulez, quelque peu prévu les choses, puisqu'on est à plus de 50% déjà de l'activité qui est due Maison Perrier. Donc voilà, on a ce sujet-là aussi qui est devant nous.
Et qui a basculé sous cette étiquette, si
tout
je
à
puis
fait.
Dire.
Tout à fait.
Merci Alexandre Wizil d'avoir été avec nous aujourd'hui, sénateur socialiste de l'Oise, publication du rapport le 19 mai.
C'est ça.
Merci encore. 13h45 sur Inter. Et merci également à Marie Dupin, dont vous retrouvez sur franceinter.fr les enquêtes. Sur ce sujet, j'en viens à notre feuilleton. Une semaine dans leur vie, nous sommes toujours dans notre cabaret à Renaison, dans la Loire. Les cabarets, ces lieux de spectacle, accueillent un public fidèle, à tel point que la ministre de la Culture, Rachida Dati, a lancé un plan pour les protéger, les valoriser et les soutenir. La clé de leur succès, la coordination du service en salle avec le show sur scène. On retrouve notre reporter Victor Vasseur à quelques heures de l'ouverture.
Toute la mise en place de la salle est finie. Donc on a remis en place dans la nuit là. Et là ils ont tout installé, les couverts, tout est prêt, en cuisine ça travaille. Donc on est prêt pour accueillir le public ce soir.
Parce qu'hier soir l'ambiance était différente.
Eh bien oui, hier on était en mode pub concert avec le concert de Jean-Jacques Goldman. Et là, ce soir, on est en dîner-spectacle avec la Grande Revue Cabaret.
Combien de personnes sont attendues ce soir?
Alors ce soir, on est à 380.
C'est quasi complet?
Quasiment, oui.
Vous en ouvrez un sacré paquet, là?
Ouais, bah aujourd'hui, j'en ouvre... 90, 100, à peu près. Par semaine, on est sur... entre 250 et 300 bouteilles. Moi je suis Florian, je suis le responsable de salle actuellement. Voilà. Et puis donc ici on est sur une soirée où on a 317 couverts à peu près.
Et quel est le menu ce soir?
Un tartare de saumon maison, c'est important de le préciser. Voilà. Saumon à l'oseille, magret avec une sauce au miel, plein de bonnes choses, du foie gras, du paleron de veau confit excellent qui fond dans la bouche. Voilà, c'est une merveille.
C'est une partition, parce que à telle heure commence le spectacle, à telle heure les desserts doivent être servis.
C'est ça, tout à fait, on a des timings qui sont respectés pour pas que le spectacle finisse trop tard, évidemment. Mais oui, c'est ça, on est un peu des chefs d'orchestre, au final, avec le chef, et on fait en sorte que l'harmonie soit assez mélodieuse pour les clients, et qu'ils ne s'ennuient pas, et qu'ils ne voient pas le temps passer non plus.
Je suis Frédéric Arnaud, je suis l'un des deux gérants de l'Élégance Cabaret à Renaison.
Une soirée au Music Hall, ça coûte combien?
Il y a plein de formules différentes, plein de repas différents, plein de menus différents pour s'adapter à ceux qui souhaitent du plus ou moins riche, quoi, on va dire. Dans un cabaret, on peut venir voir un spectacle sans forcément consommer en réalité. Donc c'est une offre qui existe déjà, qui est aux alentours de 40 euros. On peut venir simplement voir le spectacle. Mais il est vrai que dans 99,9% des cas, les gens viennent quand même pour un déjeuner ou pour un dîner. Et ça aussi entre 57 et 140 euros.
Comment on rend le cabaret moderne et actuel, alors que dans l'imaginaire collectif, c'est assez codifié?
Ah oui, bah, complètement. D'ailleurs, on le dit souvent qu'on dépoussière le music hall, parce que c'est vrai que c'est surtout au niveau de l'image en réalité. On peut penser que le cabaret, c'est peut-être des spectacles pour les seniors, pour les anciens, ce qui n'est pas du tout le cas en réalité. Aujourd'hui, on fabrique des spectacles très très modernes, très actuels, musicalement, etc., au niveau des recherches d'idées. Les jeunes qui viennent au cabaret nous le disent d'ailleurs. Souvent, ils sont venus au cabaret en se disant, oh, tiens, alors on va voir un peu par curiosité, sans penser que c'est forcément pour eux. Et puis à la sortie, ils nous disent, waouh, vraiment, on ne s'attendait pas à ça.
Dans moins d'une demi-heure, les premiers clients vont arriver dans la salle. Tout est prêt, les tables sont dressées. C'est le moment pour les serveurs de faire un dernier briefing, un dernier point sur l'organisation de la soirée.
Bien, donc aujourd'hui, on a une bonne jauge, on a 305 personnes. J'ai pas Elodie au bar, donc je vais être toute seule au bar. Je suis aussi à l'envoi du show, donc il va falloir que vous voyez avec Anine pour les commandes. Donc c'est le chef qui donne le timing. Une fois qu'on a envoyé tout le show, vous partez au débarrassage. Il y a une équipe que Flo enverra pour débarrasser parce que les VIP ont le fromage. Moi, je vous souhaite à tous un bon service et surtout, ne stressez pas, bon service. Merci.
On reste détendu pendant le service. Dernier épisode demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France. 13h49, le jeudi, nous parlons gastronomie. Avec Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest aujourd'hui. Marie-Luce, direction Mouans-Sartoux, une commune où on se nourrit mieux qu'ailleurs.
Nous voici sur les hauteurs de Cannes, à quelques kilomètres de Mougins. Mouans-Sartoux, oui, 10 000 habitants, avait tout pour être la proie de la spéculation immobilière. Au lieu de cela, elle est un modèle de souveraineté alimentaire. Elle a d'abord gagné le pari des cantines scolaires. Depuis 2012, ça ne date pas d'hier, les 1200 enfants mangent tous les jours 100% bio.
Alors comment a-t-elle réussi? Comment a-t-elle fait?
Grâce à l'achat en 2005 du domaine de Hautecombe, devenu un centre d'éducation à l'alimentation durable et surtout une régie agricole. Sur 6 hectares, un potager couvre 80% des besoins en légumes de la cantine. On voit pousser des tomates, des épinards, des pommes de terre, des salades, des aubergines. 4 employés municipaux travaillent la terre, récoltent le matin pour le repas du midi des petits. Ils anticipent aussi les saisons de disette. Je les ai contactés mardi, ils venaient de surgeler 300 kilos de poireaux et de pois gourmands. Tous les ans, 25 tonnes de végétaux sont cultivées à Hautecombe. Ce domaine nous a permis de gagner en autonomie, défend Gilles Pérol, adjoint chargé du dossier depuis 30 ans. Jérôme, sachez qu'ici, les enfants mangent végétarien la moitié de la semaine. Comme tout y est délicieux et bien géré, le gaspillage a été réduit de 80%. Résultat, le coût moyen du repas est à 2,18 € quand il est à 2,21 € en France. Et une étude menée par le CHU de Nice a révélé que le taux d'enfants obèses à Mouans-Sartoux était inférieur de 45% à la moyenne nationale.
Donc on y mange mieux qu'ailleurs et c'est moins cher. Et ces enfants, Marie-Luce, depuis, éduquent les adultes.
Venus de Nice et de Montpellier, des universitaires auscultent cette ville pas comme les autres. En effet, les bonnes pratiques ont infusé au-delà de l'école. 2 enquêtes indépendantes concordent. 87% des familles ont changé leurs habitudes alimentaires. Elles ont réduit de 30% leur consommation de produits ultra-transformés, de 23% celle de viande et ont augmenté de 28% leur panier de nourriture bio. Les seniors, les familles, viennent souvent suivre des cours de cuisine ou apprendre à faire leur propre potager au domaine de Hautecombe.
Et la commune propose de partager son expérience avec de futurs candidats aux municipales. Comment ?
Mais rendez-vous mercredi prochain, 16 avril, à 14h, pour un premier webinaire parmi les 6 qui seront proposés d'ici le mois de décembre. En juillet et novembre, moyennant 35 €, repas compris, le candidat sera aussi invité sur place pour voir comment fonctionnent la cantine et le domaine agricole. Cette initiative est pratique et politique, souligne Gilles Pérol. Nous assistons avec regret au dénigrement du bio, aux assauts contre le Nutri-Score. On craint que la question alimentaire passe à la trappe du débat des municipales. Cette formation est donc une façon de résister au vent mauvais. Pour nous, l'échelon local est le plus efficace pour gagner le combat d'une alimentation saine pour tous.
Et vous avez pioché à la cantine de Mouans-Sartoux, Marie-Luce, la recette de l'un des plats servis là-bas.
Oui, et ce sera un potage de chou-fleur et de lentilles corail préparé par Tayeb Menri, chef de cette cantine extraordinaire. Dans un peu d'huile, faites revenir un oignon. Ajoutez coupé en dés 2 pommes de terre et 3 carottes, le chou-fleur en bouquet ainsi qu'une cuillère à café de curry. Couvrez d'eau et faites bouillir à petit feu pendant 25 minutes. Ajoutez 200 g de lentilles du commerce équitable. Une fois l'ensemble cuit, mixez. Ajoutez du sel et du poivre. Au moment de servir, Taïeb Menri ajoute dans chaque assiette quelques feuilles de persil et un filet d'huile d'olive venue elle aussi du domaine de Hautecombe. Heureux sont les enfants de Moinsartou.
Et en plus, c'est facile à faire. Merci Marie-Luce Ribaud pour cette recette en direct de Bordeaux. De C'est la France. Ah, c'est une chanson. C'est la jeune influenceuse et actrice Paola Locatelli que l'on retrouve aujourd'hui à votre micro, Frédéric Pommier.
Elle s'est fait connaître à l'âge de 11 ans en publiant des vidéos sur YouTube. Aujourd'hui, elle en a 21. Elle compte environ 2 millions d'abonnés sur les réseaux, travaille pour des marques et des associations et fait aussi du cinéma. Elle sera la semaine prochaine à l'affiche de Rapide où elle incarne une championne de Formule 1. Et c'est de la chanson Love Song de Rihanna qu'elle a souhaité parler.
Moi, j'écoute tous les albums de Rihanna, j'écoute toutes ces musiques m'apportent quelque chose. Et cette chanson-là, je ne sais pas comment l'expliquer, mais elle me touche particulièrement. Et je l'écoute très souvent, au moins une fois par jour. Et bah, c'est comme si je l'écoutais pour la première fois. Je m'en lasse jamais. Donc je peux l'écouter sur les pistes de ski, je peux l'écouter en train de me doucher chez moi, je peux l'écouter quand je suis en train de faire à manger, je peux l'écouter seule aussi dans les rues de Paris ou dans les rues de New York. J'adore me promener avec mon casque et écouter cette musique. C'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais je déteste ma propre compagnie. J'ai toujours besoin d'être entourée, etc. Et cette musique, j'aime que l'écouter seule. Donc c'est une manière pour moi d'être aussi seule avec moi-même et j'arrive à rester seule en écoutant cette musique.
Donc avec cette chanson-là, vous supportez votre compagnie.
Exactement. Et je veux l'écouter seule parce qu'elle me ramène vers des souvenirs très lointains et elle me ramène dans une émotion de nostalgie tout le temps. Et la nostalgie, c'est un sentiment qu'on adore et en même temps qu'on déteste un peu. C'est un peu bizarre. C'est d'être heureux en étant triste, la nostalgie.
C'est en 2012 qu'est sortie cette chanson de Rihanna, Frédéric, un duo avec le rappeur Future.
Et ce duo plonge Paola Locatelli dans une multitude de souvenirs.
Je pense à ma grand-mère quand je l'écoute, je sais pas pourquoi, mais je pense à ma grand-mère qui me manque beaucoup. Je pense à Nathan, aussi un ami qui est parti il y a 2 ans, des voyages que j'ai fait avec mes amis. Je pense à des fous rires que j'ai eus, je pense à des pleurs que j'ai eus aussi. Enfin, à plein de souvenirs, mais j'arrive à choisir les souvenirs en fait. Je me mets un peu dans un mood, ok, bon là je vais penser à ça, je veux retourner dans ces souvenirs-là. Cette musique va juste me permettre d'y accéder.
Et c'est vraiment cette chanson-là en particulier.
C'est cette chanson-là en particulier. Pourtant, il n'y a pas énormément de paroles dans cette musique. Elle dit juste « I need love and affection ». Vraiment, il n'y a pas grand-chose. Mais je ne saurais comment l'expliquer, mais c'est une musique qui me touche énormément. Je l'adore. Express it, don't slip, 'cause a nigga might push up on it. Don't really wanna lose this moment. While window shopping, you own it. Don't put it down.
Rihanna, c'est donc une chanteuse que vous écoutez depuis que vous êtes toute petite.
Oui.
C'est votre chanteuse préférée?
C'est mon artiste préféré.
Pour quelle raison?
Bah, j'ai commencé à écouter Rihanna quand j'avais 5 ans. Et je me souviens que quand j'étais petite, j'écrivais des lettres à Rihanna parce qu'il y avait son adresse sur Internet. Évidemment, c'était une fake adresse. Mais moi, je pense que c'était vraiment son adresse. Et je lui écrivais des lettres et je les donnais à ma mère pour qu'elle puisse les envoyer par la poste. Et je me suis beaucoup identifiée à elle. C'est une artiste noire. Je m'identifie à elle par rapport à ses cheveux. Quand elle a créé sa marque de maquillage, extrêmement inclusive aussi, je me suis beaucoup identifiée. C'est une personne qui a créé un empire, qui est partie de rien, qui habitait en Barbade. Je l'admire beaucoup.
Est-ce que vous pensez qu'elle vous a aidé à grandir?
Totalement. Totalement. C'est en partie grâce à elle que j'ai commencé à m'exposer aussi, à commencer les réseaux sociaux, YouTube, même le cinéma. C'est elle qui m'a apporté beaucoup de courage, d'espoir. Quand j'étais très jeune et j'ai eu de la chance de la rencontrer quand j'avais 13 ans et d'échanger avec elle. Et depuis, on s'est revus 2, 3, 4, 5 fois même à différents événements. Et elle est tellement humble et gentille et généreuse dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle fait. Et oui, franchement, c'est une personne qui m'inspire et que j'admire et qui m'aide tous les jours.
Love Song, Rihanna et Future. C'était donc, Frédéric, le choix de Paola Locatelli.
Paola Locatelli que vous pourrez retrouver mercredi prochain au cinéma dans le film Rapide.
Et pour vous, ce sera très rapide, ce sera dès demain. Merci Frédéric Pommier.